Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur So Sweet Planet, j'accueille Martin Boudot. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires. Vous avez rejoint en 2009 l'agence de presse Première Ligne et vous y avez réalisé depuis des documentaires pour France Télévisions, Netflix, Canal+, Arte. Vous avez couvert des événements un peu partout sur la planète et reçu plusieurs prix pour la qualité de vos reportages. Vous êtes aussi l'auteur de Toxic Bayer. Bayer, l'un des leaders de l'industrie pharmaceutique, qui est aussi le plus grand vendeur de pesticides au monde et qui a racheté Monsanto en 2018. Votre livre est sorti aux éditions Plomb en 2020. Je le signale précisément parce que je pense que ça peut intéresser aussi nos auditrices et auditeurs de So Sweet Planet. Vous avez travaillé 5 ans pour Cash Investigation sur France 2 et vous développez depuis 3 ans Vers de Rage, une série de documentaires d'investigation scientifique sur des scandales environnementaux diffusés sur France 5. Vous venez de terminer 3 nouveaux épisodes qui vont être diffusés dimanche 19 septembre à 20h55 sur France 5 et sur le site de France Télévisions, France.tv. Bonjour Martin Boudot, bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, je vais lire tout de suite le petit texte de présentation de cette nouvelle série. Martin Boudot, journaliste d'investigation, part sur les traces des pollutions de notre monde. Contamination des fleuves, de l'air et des sols, radioactivité, rejets toxiques, etc. Pendant un an, il enquête avec le soutien d'une équipe de scientifiques indépendants dans le monde, mais aussi localement, pour réaliser des tests et documenter les pollutions. Les résultats de ces études scientifiques inédites sont ensuite mis à disposition des citoyens victimes de ces contaminations qui s'en emparent pour mobiliser la société et faire bouger les lignes. Le journaliste confronte aussi les responsables industriels et politiques mis en cause dans ces scandales environnementaux. Chaque enquête internationale se déroule également en France car les pollutions n'ont pas de frontières. Ces numéros inédits ont fait l'actualité déjà dans les médias français et étrangers et racontent l'impact de ces investigations. Donc ces 3 nouveaux épisodes, ce sont « Engrais maudit »,« Du charbon dans les poumons » et « L'uranium de la colère » qui est déjà sélectionné en ouverture du FIGRA, le Festival international du grand reportage d'actualité. La première saison de Vers de Rage a été sélectionnée par 16 prestigieux festivals internationaux. Et Green Warriors, la version internationale de Vers de Rage, est diffusée sur les chaînes d'une quinzaine de pays et cumule pour certains numéros plus de 10 millions de vues en ligne. Alors avant d'en parler plus en détail de cette nouvelle série, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né le concept de Vers de Rage ? Est-ce que c'était votre idée ? Comment ça a vu le jour ?
Alors oui, c'est mon idée et c'est né d'une façon assez simple lorsque je travaillais à Cash Investigation, qui est vraiment une très bonne école quand on veut faire du journalisme d'enquête. Je me suis rendu compte assez vite, dès le premier numéro en fait, puisque j'ai pu participer vraiment au lancement de Cash Investigation en travaillant sur le premier et le deuxième numéro. Les deux numéros qui ont été lancés en même temps, les deux premiers, je me suis rendu compte à quel point le fait scientifique pouvait être un élément d'investigation très important. Je reviens dans le passé, on est en 2012, je m'intéresse au greenwashing, vous savez, la fausse écologie, hein, l'écologie de façade, très très en vue actuellement et très utilisée par les entreprises et aussi par les gouvernements. À l'époque, on est en 2012, je m'intéresse notamment au groupe Areva, l'un des leaders de l'uranium et de l'énergie nucléaire dans le monde. Et je vais notamment au Gabon, dans une ancienne mine d'uranium qui s'appelle Mounana, pour m'intéresser à la pollution qui resterait, qu'il y aurait encore sur le site malgré le fait que la mine ait été fermée. Et très vite, pour faire le tri entre ce que me disent les militants et ce que me disent les dirigeants d'Areva, les prélèvements, l'analyse scientifique apparaît comme une sorte de troisième voie assez efficace pour pouvoir vraiment mettre tout le monde d'accord en disant voilà, il y a bien une pollution. Non, elle est peut-être pas aussi importante que ce que disent les militants, mais elle est certainement plus importante que ce que dit l'industriel. Et donc, j'ai commencé à faire des relevés avec le compteur Geiger. Je vais faire des prélèvements de boue, des prélèvements de végétaux, des prélèvements d'eau. Et je me rends compte, c'est comme un déclic. Voilà. On peut produire de l'information scientifique. On peut arriver à cela. Et ça peut vraiment être débattu comme un fait et non comme une opinion.
Oui, c'est vraiment du factuel, quoi. En fait, je me disais, c'est quand même bon signe, parce qu'il y a eu des documentaires, comme je pense à ceux de Marie-Monique Robin, ou qui ont fait bouger les lignes, y compris à l'international, notamment aussi avec le monde selon Monsanto et d'autres. Mais c'est quand même bon signe, je me disais, puisqu'on tape beaucoup sur nos médias, mais qu'une chaîne nationale accepte de produire, de diffuser des documentaires qui remettent en question quand même des grands intérêts aussi.
Absolument, et il faut rendre hommage à France Télévisions. Verdora, je ne pourrais pas le faire sur une chaîne privée. C'est impossible. Je mets en cause trop d'annonceurs potentiels. Je mets en cause trop d'industries qui auraient un intérêt à faire de la publicité. Donc très clairement, France Télévisions nous permet de faire Verdorage, comme France Télévisions nous permet aussi de faire Cash Investigation. Et Cash Investigation ne pourrait pas exister sur TF1, ne pourrait pas exister sur M6, ne pourrait pas exister sur Canal+. C'est ça aussi la spécificité du service public. Et je vais même encore aller plus loin, c'est que Cash Investigation est une formidable émission pour laquelle j'ai travaillé 5 ans et qui vraiment est une exception dans le paysage médiatique français aujourd'hui. Moi, ce que j'ai essayé de développer avec Verdorage, c'est de mettre une partie assez importante du budget de notre documentaire dans une investigation scientifique, parce que les analyses, ça coûte cher. Chaque prélèvement, je ne vais pas vous donner évidemment, tout varie, mais parfois, j'ai des prélèvements qui valent 250 euros par prélèvement et j'en fais une trentaine. Donc, vous imaginez que le prix monte très vite et là-dessus, France Télévisions a accepté de nous suivre et de plus en plus des scientifiques aussi acceptent de nous suivre en disant eh ben, on est capable de faire travailler la science avec le journalisme, on arrive à vulgariser l'un et on peut réussir à trouver des terrains d'entente pour que les scientifiques et les journalistes travaillent ensemble dans un but citoyen, de service public, de donner de la connaissance, de produire de l'information qui soit indépendante. Donc ça c'est vraiment chouette.
Oui, puis parce qu'on va en reparler, parce qu'effectivement, on peut se dire, mais ça a l'air tellement simple, en fait. Pourquoi il n'y a pas plus d'ONG qui font ces prélèvements Alors, il y a des ONG aussi qui font des prélèvements, mais ce que vous apportez en plus, et on va en reparler, c'est effectivement à un moment, que les ONG peuvent faire aussi d'ailleurs, et ont déjà fait, mais de mobiliser les médias sur des preuves factuelles. Ce qui fait qu'il y a les lignes du pouvoir vacillent un petit peu, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est justement que vous allez un cran plus loin que d'autres documentaires qui révèlent des problèmes environnementaux, d'où l'on sort généralement mieux informé, mais complètement déprimé par les constats et souvent par notre sentiment d'impuissance en tant que citoyen, simple citoyen. Vous provoquez donc des changements profonds. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, peut-être en parlant de la saison précédente, pour ne pas trop en dévoiler sur celle-ci, même si on va quand même en discuter un petit peu après.
Absolument. On essaie en tout cas d'avoir de l'impact. Alors, nous, on produit de l'information, on la met à disposition des citoyens et libre à eux de s'en emparer ou pas. Parfois, ils s'en emparent et ça fait vraiment bouger les lignes. Parfois, ils s'en emparent pas autant qu'on aurait espéré. Et c'est ainsi et il faut le respecter. Moi, je ne mobilise pas les médias en tant que tels. Je transmets mes infos aux citoyens, à eux de faire le travail après.
Ah oui.
Mais c'est vrai que ce que j'ai essayé de faire avec l'équipe de Verdorage sur ce projet de documentaire Verdorage, c'est vraiment de changer un tout petit peu la narration de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de dire, voilà, on a des révélations. On a des chiffres incroyables, on a fait une étude scientifique unique au monde, on a dépensé 10 000 euros de prélèvement, rendez-vous mardi à 20h50. Ben ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus parce que de garder les révélations pour moi et que de les balancer comme ça au public, ça n'a pas autant d'impact que de les révéler durant l'enquête. Mmh. Et qu'importe si c'est M6, si c'est France 3, si c'est TF1 qui s'en emparent, je m'en fiche, du moment que ça fait un tout petit peu bouger les lignes et que ça fait avancer un peu le schmilblick. Et là, c'est un peu une vision différente de la narration où on va inclure la révélation et on va regarder pendant 6 mois ou même plus que 6 mois ce qui va se passer en termes d'impact. Pour donner une idée, sur un documentaire qu'on a réalisé sur l'exposition aux pesticides des habitants paraguayens, donc au Paraguay qui habitent près des champs de soja. C'est le Paraguay, 97% de l'agriculture paraguayenne est aujourd'hui dévolue au soja transgénique, hein, de Monsanto notamment. On a fait une étude sur la comparaison entre des enfants qui vivent à proximité de ces champs de soja transgénique et puis des enfants qui vivent dans la seule zone bio du Paraguay. Et on a comparé leurs dommages génétiques avec un laboratoire de génotoxicité d'Asunción, le seul du pays, voire même l'un des seuls d'Amérique du Sud. Et on a vu des différences majeures dans les dommages génétiques entre ces deux populations qui vivent sur les mêmes modes de vie, dans les mêmes régions et avec le même patrimoine génétique. Et donc, c'était très intéressant. Et ces résultats-là sont allés jusqu'au Sénat, au Paraguay, ont été diffusés dans les médias nationaux qui jusqu'alors ne s'y intéressaient absolument pas. La docteure avec qui j'ai travaillé est passée, en gros, dans le JT de 20h. Elle a pu expliquer un peu ce qu'elle avait trouvé. Les victimes aussi ont eu le droit à la parole. Et puis, je vais même aller plus loin que ça, 2 ans après ce documentaire-là, notre numéro de verre d'orage, Guerreros Verdes en espagnol, devait être diffusé au Paraguay. Et il y a eu une tentative de censure de la part du lobby du soja et du lobby de l'élevage intensif qui a tenté de le censurer d'un festival pour lequel il devait être programmé. Et là, ça a fait l'effet stressant. C'est-à-dire, voilà, ça a amplifié encore plus notre documentaire qui a été beaucoup plus visionné que ce qu'il aurait dû être dans la vraie vie. Et voilà, donc ça a un peu changé ça. En Afrique du Sud, on a travaillé sur les mines d'or, nos résultats d'analyse, nos prélèvements de cheveux, nos prélèvements de sol, nos prélèvements d'eau sont utilisés dans le cadre d'une procédure juridique par des communautés et notre documentaire est projeté par une association quand elle veut sensibiliser sur la question des pollutions minières dans le pays. En Indonésie, on a fait un gros travail autour d'une rivière qui s'appelle le Citarum, qui est considérée comme la rivière la plus polluée au monde. Et on s'est rendu compte que parmi les plus gros pollueurs, il y avait l'industrie textile. Et on a fait plein de prélèvements encore autour des rejets de ces industries textiles-là. On a présenté le tout aux citoyens et également au gouvernement qui a annoncé des changements dans la réglementation des eaux usées. Alors, c'est pas hyper sexy, mais c'est très efficace. Ça veut dire que dorénavant, ils prennent en compte des éléments, des polluants, qu'ils ne prenaient pas en compte avant notre investigation. C'est des changements qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui peuvent avoir un vrai impact sur la biodiversité et sur la santé humaine.
Oui, c'est ça, qui ne sont pas anodins quand on voit ce que vous montrez sur justement les dégâts environnementaux et les dégâts sur les vies humaines, quoi, qui sont quand même très, très, très importants. Et je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas des moments où l'évolution de la situation au cours de l'enquête et des révélations peut vous échapper ?
C'est-à-dire qu'elle va au-delà de ce que j'imaginais ou...
Oui, c'est ça. Par rapport à ce que vous avez prévu au départ, est-ce que vous avez quand même une trame, un synopsis, j'imagine, pour chacun des épisodes ? Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça peut tourner différemment
Absolument.
Que ce que vous aviez prévu ?
L'exemple étant dans la deuxième saison, donc celle qui est diffusée le 19 décembre sur France 5, 19 septembre sur France 5, alors que nous intéressions à la question du cadmium, qui est un métal lourd cancérigène. En France, on a un problème avec le cadmium, il est trop présent dans les sols en France. C'est ça le constat. On essaie de comprendre pourquoi. Et nous, on a essayé de remonter la chaîne de responsabilité. Alors que nous enquêtions, alors que cela faisait 6 mois que nous enquêtions et que nous avions trouvé la cause très probable, eh bien l'ANSES, la plus haute autorité de sécurité sanitaire et des aliments en France, a sorti un rapport expliquant que, avec les mêmes conclusions que ce que nous avions, évidemment avec une approche différente, beaucoup plus scientifique, avec beaucoup plus de moyens aussi, vous imaginez, allant totalement dans notre sens. Absolument. Et donc ça a complètement conforté notre investigation et ça nous a permis de moins prêcher dans le désert, entre guillemets. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. J'étais absolument pas au courant que l'ANSES avait ça dans les cartons. Et je trouve ça formidable que ça faisait quand même 2-3 ans qu'il l'avait lancé le truc, hein. Donc on a quand même une chance incroyable d'arriver à ce moment-là. Et par conséquent, nous avons pu interviewer l'ANSES qui à qui nous avons transmis nos données d'analyse sur les engrais phosphatés dans lesquels il y a du cadmium, sur les pommes de terre, dans les urines des Bretons que nous avons rencontrés, etc. Enfin, tout ça, on l'expliquera peut-être plus tard sur ce sujet sur les engrais. Et ils les ont pris avec grand plaisir. Et en fait, c'est gagnant-gagnant parce que ça conforte ce que eux ont dit et ça se conforte ce que nous avons trouvé. Donc oui, ça peut parfois nous échapper et parfois même dans le bon sens.
Et dans le mauvais sens, ça peut arriver aussi.
Alors oui, mais là, c'est plus
des bâtons dans les roues qui n'étaient pas prévus.
Bah, je reprends toujours ce même sujet sur les engrais phosphatés. Je ne pensais pas que toutes les portes se fermeraient du côté des industriels. Je ne pensais pas que vous verrez dans le documentaire, à un moment donné, on diffuse un document interne du lobby des engrais qui dit attention, il ne faut pas parler avec Martin Boudot, surtout ne lui parlez pas, tant que le sujet ne devient pas public, on ne prend pas position, on ne prend pas la parole. Et ça, pour être honnête, je pensais quand même avoir leur parole dans une interview, dans une visite, quelque chose, parce que on a toujours quelque chose à dire. Moi je suis pour la nuance, et c'est vrai que c'est toujours désagréable d'avoir un refus de principe pour cela, mais bon, écoutez, c'est comme ça.
Donc vous avez ici, dans cette série, plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur, vous retrouvez enquêteur, ça touche aussi des aspects juridiques et scientifiques. Comment vous vous préparez pour jongler avec toutes ces compétences? Est-ce que vous avez une équipe spécialisée pour chacun de ces domaines, ou comment ça se passe?
Alors oui, j'ai une équipe de Verdorage. Verdorage, c'est vraiment un travail collectif. C'est vraiment un travail avec de nombreuses personnes autour de moi. J'ai à mes côtés souvent ce qu'on appelle un enquêteur ou une enquêtrice. Ça va être un journaliste qui va vraiment travailler sur la matière, l'enquête, le open data, la cartographie, etc. Avec qui on va travailler sur l'amont, en fait. Voilà, la littérature scientifique, qu'est-ce qui est sorti, tout ça. Et puis, j'ai également un caméraman qui va venir avec moi sur les tournages, comme vous l'imaginez. J'ai également un monteur qui va être avec moi pendant 5 semaines pour monter le 52 minutes. On a aussi des avocats, un service juridique qui va regarder notre sujet et qui va dire est-ce que là, on est bien dans les clous en termes juridiques, etc. J'ai une équipe de production qui va m'aider, c'est bête, hein, mais qui va m'aider à faire... rapatrier des prélèvements via un transporteur, mais depuis un autre pays. Donc, il y a toute une organisation. Je dis souvent que Verdorage, c'est 95% d'organisation et 5% de tournage, vous voyez. Et c'est un peu le cas parce que les endroits dans lesquels on va sont souvent interdits. Et donc, il ne faut pas laisser la moindre... incertitude, on peut rien laisser au hasard. Donc c'est beaucoup de travail préparatoire, et c'est beaucoup de travail avec toute l'équipe pour arriver à faire ce travail de Verdorage.
Oui, parce que vous êtes parfois arrêté par la police locale, on le voit à plusieurs reprises.
Oui, malheureusement, j'ai les thématiques environnementales sont assez sensibles dans le monde. Il ne faut pas oublier que les militants qui meurent le plus aujourd'hui, c'est les militants environnementaux.
Oui, on va en reparler aussi.
Et ce sont eux, évidemment, qui prennent le plus de risques. Ça montre, non pas que nous, on soit en danger de mort, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça montre la sensibilité de ce genre de problématique, que ce soit au Niger, où je suis allé, en Pologne, au Maroc, au Paraguay, etc., etc. C'est jamais évident de travailler dans ces endroits-là. Et très souvent, malheureusement, on est confronté à des refus policiers, à des refus gouvernementaux de travailler... et de pouvoir informer.
Oui. Et alors, comment choisissez-vous les sujets? Il y a eu six épisodes, donc, maintenant, de tournée. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet peut être un bon sujet? Est-ce que c'est l'ampleur des dégâts? Est-ce que c'est l'endroit où ça se passe? Est-ce que...
Il n'y a pas de recette miracle. Il y a plein de petits ingrédients. Mm-hmm. On peut être alerté par des lanceurs d'alerte, des citoyens qui peuvent nous appeler. Comme vous le disiez en préambule, Verdorage fonctionne quasiment mieux à l'étranger qu'en France. Il y a une version internationale, Green Warriors en anglais, Guerreros Verdes en espagnol, qui fonctionne très très bien, qui est diffusée dans beaucoup de pays, et ce qui nous permet d'avoir des retours de beaucoup de citoyens. Oui. Qui regardent ce qu'on a au Mexique, par exemple, au Pérou, en Espagne, qu'importe, en Pologne. par exemple, Verdorage a été diffusé en Pologne, et bien, à la suite de cette diffusion, un groupe de citoyens m'a contacté en me parlant de la situation de la pollution de l'air. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du numéro sur le charbon, et notamment en Pologne, que vous aurez l'immense joie de découvrir le dimanche 19 septembre. Mais voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et puis, il y a aussi notre travail à nous. Par exemple, je m'intéressais à la question de la génotoxicité des pesticides. Je regarde dans la littérature scientifique, dans les nombreuses études qui ont été faites, et puis je tombe sur cette étude réalisée au Paraguay, exploratoire, très intéressante, de comparaison entre les deux populations dont nous parlions au préalable. Et je décide de contacter cette équipe scientifique en disant, voilà, je trouve ça formidable ce que vous avez fait. Leur population témoin était un peu faible, et je leur propose qu'on élargisse, qu'on mette en place un partenariat pour élargir un peu cette population, pour avoir davantage de données, et on tombe d'accord. Et puis en plus de ça, moi je leur propose de faire des prélèvements de soja, de terre, d'eau, pour regarder si on trouve des pesticides qui sont classés comme génotoxiques, ce qui pourrait, vous voyez, montrer une sorte de lien entre ce qu'on trouve dans le sang des enfants en termes de génotoxicité et ce qu'on trouve dans l'environnement. Et voilà, donc ça peut être aussi ça. Et puis il y a des sujets pour lesquels on a vu un article dans la littérature scientifique, dans la presse mondiale, qui nous interroge, et on commence à dérouler un fil. Donc il y a plein de possibilités de trouver les documentaires.
Alors le premier épisode de cette nouvelle série porte le titre donc de Engrais maudits. On va essayer d'en parler sans trop en dire. Donc il s'agit d'engrais phosphatés, des engrais essentiels pour la production entre autres des pommes de terre. Votre enquête se passe entre le Maroc, qui détient, dites-vous, 3/4 des réserves de phosphate de la planète, et la Bretagne. Est-ce qu'on peut savoir comment il est né ce sujet-là ? Il y a eu un lanceur d'alerte, ça vient de Bretagne, ça vient du Maroc, parce que le sujet est assez complexe, assez pointu, et les dégâts assez importants là aussi.
Absolument. Le sujet est né avec un article scientifique qui parlait de la surimprégnation des sols français au cadmium, un métal lourd cancérigène que moi je connais bien parce que j'ai travaillé sur ces questions-là dans le passé, et puis j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'agriculture et notamment les pesticides dès 2015, à l'époque où, je me rappelle, on devait expliquer ce qu'était le glyphosate, puisque personne ne connaissait encore. Vous voyez comme quoi les choses peuvent changer vite. Ce sujet, il naît de la façon suivante. On se rend compte qu'il y a un problème avec le cadmium en France, notamment dans les sols. Certains agriculteurs ont des taux de cadmium, un métal lourd cancérigène, dans leur sol, sans qu'ils comprennent pourquoi. Un taux qui augmente année après année. Et petit à petit, on se rend compte que l'une des causes probables, c'est les engrais phosphatés que dans l'agriculture intensive, on épanche chaque année. Parce que comme on enlève le phosphore avec les cultures, et ben on doit en remettre l'année d'après si on est dans une démarche de assez intensive. Et on a également aussi des engrais azotés, c'est encore différent ça, notamment qui pose, vous savez, les problèmes des algues vertes en Bretagne. Et voilà, le sujet est né comme ça.
Ça fait un beau cocktail, hein, tout
oui,
ça.
Oui, absolument. Parce qu'en fait, très, très souvent, quand on compare le conventionnel, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio, on pense uniquement aux pesticides. En fait, il n'y a pas que les pesticides comme différence, il y a aussi les engrais. Les engrais, on ne peut pas avoir les mêmes utilisations dans l'agriculture conventionnelle que dans l'agriculture bio. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté non plus. Et donc, on va commencer à faire des prélèvements d'engrais, les engrais les plus vendus en France, pour regarder s'il y a des traces de cadmium. Et oui, on trouve des traces de cadmium, des traces importantes de cadmium dans ces engrais, au-dessus des recommandations de l'ANSES, donc la plus haute autorité française. Et donc, on va aller à la source. D'où vient ce cadmium ? Il se trouve que le Maroc, comme vous l'avez dit, est l'un des plus gros producteurs d'engrais phosphatés au monde. Donc, on va aller au Maroc et on se rend compte sur place qu'en réalité, les mines de phosphate qui servent à faire des engrais phosphatés, eh bien, naturellement, dans le sol, avec le phosphate, il y a le cadmium, et que les industriels n'enlèvent pas le cadmium, qu'ils le laissent à côté du phosphate, et qu'au moment où on le transforme en engrais phosphaté, il y a toujours le cadmium. Et au moment où les agriculteurs épandent les engrais phosphatés, il y a toujours le cadmium. Et le cadmium, c'est ce qu'on appelle la rémanence, ça veut dire que ça reste, ça ne part pas, c'est un métal lourd, ça s'accumule, et chaque année, vous rajoutez du cadmium dans votre terre. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a forcément un transfert vers l'humain, et on s'est intéressé notamment aux pommes de terre parce qu'on sait que la pomme de terre, étant donné qu'elle grandit dans le sol, elle est en contact avec la terre encore plus que d'autres formes de végétaux qui vont plutôt grandir et plutôt à l'extérieur de la terre. Et donc la pomme de terre en fait partie des végétaux qui sont des aliments qui sont plus confrontés au cadmium et aux pollutions de la terre que d'autres. Et donc on va analyser toute une série de pommes de terre venues de la France entière, mais notamment de l'Ouest de la France, et on va trouver des niveaux de cadmium supérieurs à ce que avaient, je pense, évalué les autorités françaises. Et donc derrière, on va passer encore l'étape supérieure. Et on va analyser le cadmium dans les urines des Français, et notamment les Bretons, parce que les Bretons, ils connaissent bien la question des engrais, parce qu'ils sont confrontés aux algues vertes, donc ils sont très sensibilisés sur ces questions-là. C'est pas évident de convaincre 150 personnes de faire pipi dans un bocal. Donc il faut avoir un réseau citoyen suffisamment important, suffisamment grand, pour vous aider dans cette démarche-là. Donc la Bretagne a clairement fait partie des priorités. Et c'est comme ça que, voilà, vous voyez, étape après étape, déduction après déduction, on a réussi à sortir ce documentaire et à avoir des révélations sur l'imprégnation au cadmium de la population française.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a aussi les dégâts côté marocain, parce que vous tournez des images donc près d'une usine de fertilisants. Vous nous apprenez qu'elle appartient à un groupe industriel qui produit 9 millions de tonnes de ce type d'engrais par an. Donc c'est le premier exportateur mondial. Vous témoignez qu'une odeur de soufre émane de ces cheminées industrielles. On voit des animaux, des ânes avec des malformations, des os, des dents, les mâchoires déformées. Et vous nous informez qu'ils ne peuvent plus se nourrir, donc ils finissent par mourir. Les enfants aussi ont de graves problèmes de dents attribués à cette pollution. Là, on a parlé de la pollution par la terre, mais il y a la pollution là-bas de l'eau. Et à partir de ces constats, apparemment, il y a un déni total et même des menaces. Personne n'ose parler, à la fois de l'industriel et même de l'État.
Le Maroc est un régime autoritaire. On a parfois tendance à l'oublier. Ces derniers mois, on en a eu la preuve avec la condamnation de plusieurs journalistes et les révélations du projet Pegasus sur la surveillance de masse supposément ordonnée par le pouvoir marocain envers les opposants, envers des journalistes, envers même des journalistes français qui osent s'intéresser à la question marocaine. Le sujet du phosphate est très sensible parce que c'est une industrie nationale. C'est un peu comme nous avec le nucléaire ou le vin. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est l'OCP, c'est une entreprise qui est nationale. C'est pas un opérateur privé. L'OCP donc le groupe qui produit des engrais phosphatés, qui a refusé donc de nous recevoir et de répondre à nos questions. Il faut aussi l'indiquer évidemment. Oui, sur place, il y a une pollution qui est tout autre que celle au cadmium. Pour une raison très simple, très cynique, c'est que les agriculteurs marocains n'ont pas les moyens de s'acheter les engrais phosphatés. Donc là, vous avez une pollution, un scandale de pollution et environnementale qui est assez dingue. D'un côté, vous avez une pollution au cadmium des métaux lourds en France, et puis sur place, vous avez d'autres types de pollution, parce qu'au moment où on extrait le phosphate, il y a d'autres métaux lourds, il y a d'autres polluants qui sortent avec le phosphate, et notamment sur place, le fluor. Alors le fluor, on pense que c'est génial, on pense que c'est il en faut tous pour les dents, etc. Mais un excès de fluor, et d'ailleurs la littérature scientifique commence de plus en plus à déconseiller les dentifrices au fluor en disant qu'il faut arrêter d'en rajouter. Mais un excès de fluor peut créer ce qu'on appelle une fluorose osseuse ou une fluorose dentaire. En gros, c'est vos os qui sont rongés et vos dents finissent par tomber. C'est une hypersensibilité des dents qui s'effritent. Et donc les animaux, eux, ont tellement mal aux dents dans ces régions-là qu'ils finissent par arrêter de s'alimenter et donc ils meurent. Et pour les jeunes enfants, dans cette région donc près de Safi au Maroc, dans le sud-ouest du Maroc, les enfants aussi ont des fluoroses dentaires. Et c'est connu comme le loup blanc là-bas. Tout le monde sait que les enfants ont des fluoroses dentaires et personne n'ose trop critiquer la situation. Il y a une séquence qui est assez incroyable, sans tout dévoiler, mais à un moment donné, je vais interroger un dentiste qui me reçoit avec la plus grande décontraction au monde, qui dit bah oui, ici, tous les enfants ont de la fluorose parce qu'on sait que l'eau, elle est remplie de fluor, elle est trop chargée en fluor, on sait que c'est à cause de l'industrie du phosphate. Et ce dentiste-là, 15 minutes après notre interview, va recevoir un coup de téléphone pour lui dire de ne surtout pas me répondre. Et il va recevoir des pressions du syndicat des médecins et du syndicat des dentistes au Maroc, qui est complètement inféodé à l'industriel qui fait du phosphate. Ce syndicat lui disant « Attention, ne répond pas à Martin Boudot, c'est un agent étranger, il est là pour critiquer le Maroc, il est payé par une autre industrie pour décrédibiliser notre production de phosphate. » Rendez-vous compte, on a un syndicat de médecins qui est inféodé à une industrie qui pollue. Mais c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, c'est la première fois. Et donc, voilà, ça vous raconte l'omerta qu'il y a sur place et la peur qu'il y a de pouvoir critiquer OCP et l'industrie du phosphate au Maroc, de peur de se prendre des coups de pression, de peur de se prendre une surveillance, d'être jeté en prison, voire pire. Et parfois, nous, on a tendance à l'oublier. On pense que le Maroc, parce qu'on y va en vacances, c'est cool. Ben, en vrai, c'est pas cool, le Maroc. C'est vraiment pas cool.
On voit, en fait, dans plusieurs de vos épisodes, hein, que ce soit des médecins ou enfin à chaque fois les personnes qui pourraient témoigner on n'ose pas forcément prendre la parole pour témoigner de ces situations. On sent que les victimes ou les personnes qui pourraient témoigner ont peur. Alors est-ce qu'elles ont peur on en voit qui sont les principales victimes notamment au Maroc, on voit la situation de précarité dans laquelle elles sont. Donc on voit qu'elles n'ont pas les moyens, évidemment, de faire les analyses que vous allez produire. Il y a un rapport de force qui est très frappant à chaque fois entre ceux qui ont ce pouvoir et qui laissent faire cette pollution, qu'ils soient eux-mêmes à la tête de ces entreprises. Et puis on voit qu'il y a aussi les menaces. Qu'est-ce qui les décide à vous parler ? Parce qu'ils savent les risques qu'ils encourent, puisque jusqu'à ce moment-là, ils n'ont pas forcément beaucoup agi.
Il y a toujours un moment dans la lutte où se pose la question de la lumière, effectivement. À quel moment dois-je prendre la lumière ? Et à quel moment la lumière, donc voilà, l'attention médiatique, l'attention citoyenne, va davantage me protéger qu'elle va me nuire. Et je pense que certains de ces personnages-là arrivent à un tel point de mécontentement, à un tel point d'immobilisme, qu'ils décident de prendre la parole avec les risques qu'ils connaissent, mais en se disant que cette attention médiatique et citoyenne, voire internationale, va les protéger. Et c'est le cas parfois, c'est vraiment le cas. Parfois, c'est vrai qu'on n'arrête pas un militant qui a reçu un prix de protection de l'environnement ou qui est soutenu par des différents médias internationaux aussi facilement qu'un militant dont personne n'a entendu parler. Donc je pense qu'il y a ce pari-là qui est pris par ces personnes-là. Et puis, ce sont des gens qui sont plus courageux que toutes les personnes que moi je rencontre dans nos sociétés actuelles en France, par exemple, qui sont dans des mécanismes cognitifs où ils décident de prendre la parole, qu'importe les conséquences, parce qu'ils ne peuvent plus se taire. Nous, actuellement, en France, vous avez des gens qui ont une posture de révolutionnaire, de résistant, mais c'est à pleurer quand vous voyez vraiment ce que c'est une position de résistance et de contestation dans des pays où vous risquez d'y laisser la peau. Donc ce sont ces mécanismes cognitifs là, ce ras-le-bol, cet immobilisme, aussi ce calcul de se dire que la lumière, l'attention médiatique peut les protéger, qui les pousse à nous parler et qui les pousse aussi à militer de manière frontale avec plus de manière anonyme, avec leur tête, avec leur visage, pour que tout le monde sache qui ils sont.
Alors en Bretagne, il y a un grand-père, vous l'appelez comme ça, qui témoigne et qui se bat pour alerter sur les dégâts environnementaux. On le voit tracté sur les marchés, hein, distribuer ses petits flyers et il essaie d'informer quoi, la population. Lui, il a reçu plusieurs fois des menaces. Plusieurs personnes qui se battent pour l'environnement en Bretagne, notamment sur le sujet des algues vertes, ont reçu des menaces très sérieuses. Certaines, d'ailleurs, ont été mises à exécution ces dernières années, y compris des menaces de mort.
Bien sûr.
On voit les chiffres, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, des défenseurs de l'environnement assassinés dans le monde chaque année, notamment en Amérique latine. On pointe toujours ça parce que c'est loin. Et en fait, c'est quand même étonnant d'entendre ça en France, non ?
Absolument, il y a une vraie crispation.
Que de telles menaces.
Bien sûr, il y a une vraie crispation sur les sujets environnementaux en France. On le sent en Bretagne avec l'agriculture industrielle. On le sent dans d'autres pays, dans d'autres endroits en France avec les chasseurs. On le sent avec encore d'autres dans d'autres endroits sur la question des occupations de terrain, sur les luttes anti-nucléaires, etc. Oui, il y a une crispation réelle sur les questions environnementales qui amène à des confrontations encore plus violentes qu'auparavant et des menaces, comme vous dites, qui sont plus du tout voilées, qui sont plus des menaces numériques sur Twitter, etc., mais qui sont dans la vraie vie. C'est pas anodin de défendre aujourd'hui l'environnement. C'est pas anodin aujourd'hui de s'en prendre au lobby du coin. On pense souvent aux grands lobbies européens, à Bruxelles, etc. C'est souvent beaucoup plus simple que ça. C'est souvent beaucoup plus dangereux que ça. Il suffit que vous ayez mis en cause l'abattoir du coin qui concerne une trentaine d'emplois, une quarantaine d'emplois, et vous pouvez avoir des menaces sur votre personne, sur vos biens, etc., voire même, comme ce qu'a vécu André en Bretagne, des pétards, des gros pétards dans votre boîte à lettres, des têtes de renard devant chez vous, du fumier qu'on vous épand pour vous empêcher de sortir, voire même des têtes de rats crevés à l'acide. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont faites pour vous intimider réellement. Tout simplement parce que, enfin, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que à la limite, ils seraient dans le faux ou dans l'exagération. Il y a toujours une part d'exagération à un moment donné dans le militantisme. Je pense que c'est inhérent à cela parce qu'on est, on est emmené par cette cause. Et puis voilà, il y a forcément, ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, sur les algues vertes, tous les rapports gouvernementaux, tous les rapports des agences sanitaires racontent la même chose. Raconte que les algues vertes sont un problème sanitaire, raconte que on sait comment à quel moment ils sont produits, de quelle manière, et notamment la participation de l'agriculture intensive. Donc c'est plus comme s'il y avait un doute, vous voyez. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que on a l'impression que même quand ces militants sont dans le vrai et que la cause est juste et que tout ça est pondéré et vérifié par les faits scientifiques,
indéniable,
et bien ça ne suffit pas à calmer les plus fervents opposants et à calmer les plus violents d'entre eux. Donc ça, c'est une vraie crainte que j'ai aussi pour les militants environnementaux en France, et je leur tire mon chapeau comme à ceux dans le monde qui risquent leur vie, parce que les vrais héros, entre guillemets, dans ces histoires-là, ce sont eux. Sans eux, nous, on est rien, hein. On est un média, on est un moyen, on est un tuyau. Donc si eux n'existent pas, le tuyau, il est vide. Donc voilà, c'est à eux qu'il faut tirer le chapeau.
Et ce qui est intéressant aussi, je ne sais plus dans lequel des trois, c'est que souvent, bon, les opposants, on a toujours les mêmes arguments, c'est oui, mais il y a des emplois, on va perdre des emplois, ou alors c'est basiquement, on ne peut pas faire autrement. Se passer du glyphosate, on entend toujours ça, on ne peut pas faire autrement. Bon, il y a eu beaucoup de preuves qu'on pouvait faire autrement aujourd'hui, hein, parce que ça s'est accumulé aussi, les preuves pour trouver des alternatives. Et en fait, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est qu'il y a toujours cette espèce de mauvaise foi énorme à laquelle vous vous confrontez, parce qu'on ne peut pas croire qu'ils ne sont pas au courant à chaque fois que vous apportez les preuves aux principaux responsables. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en fait, quoi ? Puisque je ne sais plus si c'est par rapport au cadmium, justement, ou sur la pollution de la centrale à charbon, où vous demandez à un moment, mais est-ce qu'il y a moyen de protéger, d'empêcher que la pollution soit telle ? Et on vous répond que oui. Donc, c'est quand même étonnant de voir des gens qui connaissent le problème, qui ont les moyens, parce que ce sont des grosses entreprises qui auraient les moyens de faire mieux, de protéger ces populations, de protéger l'environnement, et qui ne le font pas.
Sur la question du cadmium dans les engrais phosphatés, vous êtes face à un scandale sanitaire et environnemental, entre guillemets, pardonnez-moi ce cynisme, quasi parfait. Ça veut dire que vous avez des agriculteurs qui sont victimes parce qu'ils ne savent pas qu'ils épandent du cadmium sur leur terre via les engrais. Vous avez des habitants du côté des mines d'extraction qui sont également victimes à cause de la pollution du phosphate. Vous avez les consommateurs qui sont victimes parce que notre alimentation contient trop de cadmium. Le seul qui est gagnant, c'est l'industriel. Et c'est d'un cynisme absolu parce que l'industriel et le lobby, j'ose dire ce mot, parce que parfois on le surutilise, mais là c'est le cas, le lobby des engrais est parfaitement au courant de la surimprégnation des engrais phosphatés au cadmium. Il y a trop de cadmium dans les engrais phosphatés, on le sait depuis la fin des années 90, ça fait plus de 20 ans. Et il a fallu qu'on attende que ce cadmium s'accumule dans les terres, dans les urines des Français, dans l'alimentation, etc., pour que enfin on commence à se dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on diminue et qu'on change. » Et là, quand je vous disais que c'était un scandale quasi parfait, c'est que vous avez tout, vous avez la dissimulation, vous avez les victimes à tous les étages et vous avez un seul gagnant qui, pour le coup, gagne de l'argent. C'est l'industrie des engrais avec des entreprises, notamment Roulier du côté de Saint-Malo, dont la famille fait partie des familles les plus riches de France. Donc, c'est extraordinaire de voir un tel cynisme, entre guillemets. Moi, c'est ce mot qui revient toujours dans mes enquêtes environnementales, c'est le cynisme. Après, j'entends que l'industriel dise « mais on n'est pas les seuls à polluer, on l'a fait en fonction des lois, avec le temps. » Par exemple, quand je vais voir Areva, donc, qui s'appelle Orano, maintenant du côté de Narbonne, sur leur usine qui est critiquée par les citoyens, certains citoyens et certains militants pour la pollution à l'uranium, eh bien Orano dit « bon, bah, nous, on pollue, mais on ne pollue pas plus » que ce à quoi on est autorisé à faire. C'est-à-dire, voilà, on a le droit de déverser X milliers de litres d'uranium par an et on le fait dans les... Donc, voilà, ils vous mettent tout ça en perspective. J'entends ça et c'est toujours intéressant d'avoir ce qu'on appelle le contradictoire parce qu'on n'est pas militant.
C'est indispensable.
Bien sûr, notre travail, la source du journaliste, c'est ça, c'est la vérification et le contradictoire. Et nous, on va les voir et donc on entend, on écoute et on les laisse évidemment parler. Mais il y a, oui, chez certains industriels, chez certains lobbies, chez certains responsables politiques aussi, ce cynisme assez profond de se dire finalement, c'est pas si grave. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment des victimes? En fait, c'est tellement compliqué de relier des victimes à des substances en particulier qu'on peut tous se cacher derrière notre petit doigt. Vous savez à quel point c'est difficile aujourd'hui pour des agriculteurs de se faire reconnaître en maladie professionnelle suite à l'utilisation d'un pesticide. Alors imaginez pour nous, consommateurs, pour nous, riverains, pour nous, citoyens, si demain on veut faire un procès à quelque entreprise que ce soit. Donc c'est vrai qu'on est dans des multipollutions qui font que il y a souvent un cynisme de dire c'est pas moi, ou en tout cas c'est pas autant que ce que vous imaginez. Et donc on se cache derrière une réglementation, on se cache derrière un facteur de cocktail en disant que c'est pas que nous, et donc vous avez l'industriel qui s'en sort à chaque fois.
Oui, et on a maintenant des cocktails dans les corps humains, dans nos rivières, dans nos fleuves, dans nos terres, les sols qui deviennent stériles, la chute de la biodiversité, et tout ça en se rejetant toujours la responsabilité les uns les autres pour ne pas agir. Et c'est là où on voit bien qu'il y a urgence quoi maintenant. Et alors pour le second épisode, donc du charbon dans les poumons, vous nous emmenez en Pologne, près de la centrale à charbon de Belchatov, donc la plus polluante d'Europe, dites-vous, qui émet autant de CO2 que 6 millions de voitures chaque année. Et là, donc, quel est le problème?
Eh bien, la centrale à charbon de Belchatov, comme vous l'avez dit, on l'appelle le monstre sur place. C'est une centrale à charbon qui alimente une grande partie de la Pologne. On ne se rend pas compte en France que le charbon est encore massivement utilisé en Europe, en Pologne,
en Allemagne
dans certains pays d'Europe de l'Est, comme la République tchèque, etc. Et donc, vous avez une pollution au charbon qui, évidemment, traverse les frontières. Vous imaginez que ça ne s'arrête pas, le nuage de la pollution du charbon, ça ne s'arrête pas à la frontière française. Et donc, nous, Français,
plus à ça.
Voilà, nous, Français, comme d'autres, subissons, en fonction des vents, etc., une surpollution. Alors, c'est une surpollution dont on se passe très bien. Ça ne veut pas dire que c'est la majeure partie de notre pollution. La majeure partie de notre pollution, elle est bien de chez nous, elle est bien française, elle vient de la combustion industrielle, elle vient également de nos voitures, elle vient aussi, il faut le dire, en hiver, de nos feux de cheminée, dans les villes notamment. Et il y a aussi ces épisodes de charbon qui nous arrivent d'Europe. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le principe même de verre d'orage. Moi, je m'intéresse aux problèmes environnementaux dans leur globalité avec l'équipe de verre d'orage, c'est ce qu'on essaie de faire. on part d'un principe, on est dans une économie mondialisée et donc on partage la pollution. Économie mondialisée, pollution partagée. C'est évident que quand vous avez votre téléphone, ça a eu un lien avec la façon dont ça a été produit, les minerais qui ont été utilisés, etc. Et bien c'est pareil avec le charbon. Ça traverse les frontières et ce qui est produit comme énergie dans un pays peut avoir de l'effet sur nous. Ce qui est produit comme engrais dans un pays comme le Maroc a un impact sur nous. Ce qui est produit comme uranium au Niger a un impact sur notre transformation de l'uranium en France. Donc c'est vraiment ces fils-là mondiaux qui nous intéressent et la Pologne et la pollution au charbon en fait partie. La Pologne, dans certaines villes de Pologne, vous avez des taux de pollution qui sont plus élevés que les taux de pollution en Chine. Alors pour nous, la Chine, c'est l'Armageddon. On dit souvent l'Armageddon en parlant des villes chinoises. En réalité, à 2 heures de Paris, il y a la même chose. Et vous avez des pollutions, des populations sur place qui n'en peuvent plus. Moi, j'ai vu des images, mais qui sont incroyables. Vous avez des espèces de nuages jaunes dans la ville, notamment la ville de Rybnik, là où je suis allé. Mais vous avez l'impression d'une attaque au gaz moutarde. Enfin, j'ai pas connu ça, mais les images que j'ai vues, c'est incroyable. Vous avez une odeur mais pestilentielle tout d'un coup, et ces nuages jaunes dans la rue, et vous vous demandez comment ces gens peuvent encore continuer comme à vivre de cette façon-là. Et en fait, on s'habitue malheureusement à tout, y compris au pire. Et c'est ce que vivent les Polonais.
Et j'ai trouvé un article d'Alternative économique de janvier 2020 qui mentionnait que l'Europe comptait toujours près de 600 centrales à charbon en activité, avec la Pologne et l'Allemagne en tête, je crois. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de cas aussi graves que celui sur lequel vous avez enquêté ? Ces centrales, elles sont plus ou moins polluantes, ça dépend de quoi ? Est-ce qu'elles sont toutes aussi polluantes que celles-ci ?
Non, les centrales sont toutes polluantes. Elles ont tout un degré d'avancement en termes de filtres, etc., qui fait qu'elles ne polluent pas toutes de la même manière. Les centrales polluent énormément. Ce qui pollue aussi beaucoup, ce sont les utilisations de ce charbon par les particuliers. Pour se chauffer, la Pologne est un pays qui maintenant a un certain niveau de vie, mais qui a longtemps été très pauvre, et qui du coup, les Polonais ont beaucoup et utilisent encore historiquement le charbon, qui est une fierté nationale. Hein. C'est vraiment une fierté nationale, notamment pour l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Vous savez que la Pologne et la Russie, ils ont une sorte de petits différends historiques. Donc là, le charbon faisait partie aussi de cette indépendance, de cette souveraineté. Et c'est pour ça qu'il est encore difficile de sortir des vieilles habitudes de la combustion du charbon chez les gens et également dans l'industrie. Non, elles ne polluent pas tout autant, ces usines à charbon, ces centrales à charbon. Il y en a qui polluent beaucoup également dans différents pays comme le Monténégro, enfin en Europe de l'Est de manière générale. Vous avez des usines qui, malheureusement, c'est des centrales qui sont vraiment dans un sale état. Et en Allemagne, vous avez également des centrales à charbon qui sont immenses et qui polluent l'atmosphère. Et c'est un vrai grand débat outre-Rhin sur la question de... On a arrêté le nucléaire, et d'une certaine manière, non pas qu'on l'ait remplacé, parce qu'ils ont quand même vraiment augmenté les énergies renouvelables, mais une partie a été remplacée par une augmentation de la combustion de charbon. Et c'est des questions auxquelles moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas envie de dire c'est la peste ou le choléra, mais c'est vrai que ça mérite débat. Ça mérite un vrai débat.
Mais il n'y a pas une planification en Allemagne par rapport au fait
de sortir,
à passer en énergie alternative en attendant de sortir.
De sortir, les émissions de charbon sont quand même immenses en Allemagne, vraiment immenses, et beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et sur certaines années, c'est même au-dessus de la Pologne. Donc c'est vrai que, en attendant de sortir, oui, moi je n'ai pas la réponse à tout ça, mais en tout cas, c'est des vrais débats écologistes entre écologistes. Que faut-il faire? Moi, je n'ai pas la réponse. Oui, en tout cas,
la question est posée.
J'observe de différentes façons, et c'est vrai que ça interroge.
Donc là, sur cette pollution-là, vous avez fait aussi des prélèvements pour avoir les données scientifiques et évaluer les risques pour la santé et l'environnement. Jusqu'où avez-vous fait remonter ces résultats, pour qu'on ait une petite idée de jusqu'où va l'enquête et jusqu'où ça peut faire bouger les lignes? Sans parler des résultats que les spectateurs, spectatrices verront en regardant le documentaire.
On a mis en place deux collaborations scientifiques très ambitieuses. Une première avec le CNRS, que vous connaissez bien en France, sur les analyses d'air. Essayer de regarder exactement ce qu'il y avait dans l'air autour de ces centrales et autour des villes polonaises les plus polluées. Et puis également, on a mis en place avec l'université publique de Belgique, l'université UA Celt en Flandre, une étude scientifique sur le black carbon. Alors le black carbon, ça paraît être quelque chose d'assez extraordinaire et un peu incompréhensible. En fait, c'est la suie. C'est cette fameuse suie, quand vous brûlez du charbon à un barbecue, vous avez du noir, de la suie autour de votre barbecue. Bah, c'est ça le black carbon. C'est ce qui résulte de la combustion des énergies fossiles et notamment le charbon. Et bien, figurez-vous que jusqu'à présent, jusqu'à très peu d'années, on était incapable de mesurer les taux de black carbon, donc cette suie, dans le corps. On n'arrivait pas à le faire. On pouvait dire, ce monsieur, cette dame a une capacité respiratoire de X, etc., mais on ne pouvait pas comparer l'exposition aux énergies, à la combustion d'énergie fossile, et notamment le charbon, entre deux personnes. Et donc, on n'avait pas d'indicateur. Et là, le black carbon, grâce notamment à cette université en Belgique, des scientifiques ont mis au point cet indicateur, ils arrivent à le retrouver dans les urines. Et je vous dis ça parce que c'est très important, on va en entendre parler dans les prochaines années, c'est sûr. Pour la première fois, on est capable de comparer l'exposition à la pollution de l'air des différentes personnes dans le monde. On prend une urine d'un Français, une urine d'un Polonais, et on peut voir le taux de black carbon qu'il a dans le corps. Et avant, on n'y arrivait pas. Et donc ça aide énormément. Et ce qu'on a mis en place, c'est de créer une étude scientifique avec cette université en choisissant de manière très précise avec un questionnaire des enfants polonais, moyenne d'âge 7 ans, et donc 28 enfants polonais qui vivent autour de ces centrales, et 28 enfants strasbourgeois, pareil, même moyenne d'âge, avec les mêmes délimitations, c'est-à-dire qu'en gros, on ne veut pas de parents qui fument, etc. On essaie d'expliquer, on essaie vraiment d'avoir la même population, et on a comparé leur taux de black carbon à tous ces enfants-là voir qui étaient les plus pollués. Évidemment, vous vous en doutez, c'est les Polonais, je ne vais pas vous donner le chiffre, mais en tout cas, au moment où on a révélé ces résultats, ça a été repris par 43 médias européens, notamment en Pologne. Ça a fait la une des journaux en Pologne, si bien qu'on a été reçu par le ministre de l'Environnement en Pologne. Durant cette interview, le ministre de l'Environnement nous indique qu'ils vont sortir du charbon d'ici 2035. Alors, ce n'est pas grâce à nous, hein, il y avait évidemment une réflexion qui était lancée auparavant. Peut-être qu'on a accéléré cette prise de décision, je ne le sais pas. Mais toujours est-il que cette étude a eu un impact significatif sur place en Pologne. Les mères de famille qui ont participé, parce qu'elles ont une association qui s'appelle les Women of Rybnik, les femmes de Rybnik, ont pu vraiment avoir accès aux grands médias. Et par ailleurs, notre étude a même aller jusqu'au Parlement européen, puisque le scientifique en charge des résultats a été auditionné par le Parlement pour parler de ses trouvailles. Et également en France, quand les Strasbourgeois ont sorti les résultats, qui montrent que quand même les enfants strasbourgeois sont bien exposés au black carbon, avec la pollution de nos villes françaises. Ça a quand même fait la une de plusieurs médias, notamment régionaux, là-bas. Donc c'est parfait, vous voyez, vous avez un travail scientifique mené avec des journalistes au service de citoyens qui fait un peu bouger les lignes, donc c'est formidable. Moi, je trouve ça, je suis très heureux de faire ça, je me sens un peu utile, donc c'est chouette.
Alors, le troisième épisode, donc, c'est l'uranium de la colère, sujet sensible là aussi. Pourquoi il n'est pas diffusé sur France 5, justement, celui-ci? Alors, il est seulement sur le site de France.tv.
Il n'a pas été diffusé sur France 5. En fait, on ne diffusait que deux numéros, ce qu'on appelle en linéaire, donc à la télévision.
D'accord, deux d'affilée, quoi.
Voilà, pour ne pas rendre l'antenne trop tard à Karim Rissouli, pour tout vous dire, parce que sinon, Karim Rissouli, il n'est pas content, et je le comprends, parce qu'il prend l'antenne très, très tard. Donc là, on ne peut diffuser que 2,52 minutes à la suite. Les trois sont bien disponibles sur France.tv. L'uranium de la colère va être projeté en avant-première au Festival international du reportage d'actualité au FIGRA, donc le 29 septembre, et ensuite, il va être diffusé sur France 5, à la télévision. Voilà, c'est juste, entre guillemets, c'est partie remise, quoi. Voilà, c'est juste une question de programmation, mais il n'y a aucune volonté ni de censure, ni de moins l'exposer. Au contraire, puisque lui, il va avoir droit à être en ligne, puis au FIGRA, puis d'avoir sa propre diffusion en linéaire.
D'accord. Et là, personne ne vous met de bâton dans les roues par rapport à ce sujet sensible qui est souvent...
Vous voulez dire là en ce moment ou au moment de l'enquête?
D'ici la diffusion?
Non, pas pour l'instant. Si c'est le cas, je vous le ferai savoir. Je sais très bien que c'est, pour tout vous dire,
c'est plutôt rassurant.
Oui, mais ça, voilà comment ça va se passer. Il va y avoir la diffusion, et au moment de la diffusion, vous allez avoir tout un groupe qui va se créer, notamment sur Twitter, de pro-nucléaires qui vont alimenter par certaines industries, ressortir les mêmes éléments de langage, et vous allez avoir ce qu'on appelle en anglais, pardonnez-moi du terme, un shitstorm, c'est-à-dire un torrent de boue, oui, sur ces questions-là. Je sais très bien quels journalistes vont reprendre les éléments de langage de l'industrie, et je pourrais quasiment vous écrire le scénario à l'avance. C'est un sujet tellement sensible sur l'uranium que c'est évident que ça va être celui qui va le faire le plus parler, parce que sur les engrais, honnêtement, même ceux qui sont anti-journalistes environnementaux, etc., vont pas pouvoir dire que c'est de l'agribashing. Vous voyez, sur les engrais, c'est pas de l'agribashing parce qu'on met pas en cause les agriculteurs. Ils en savent absolument rien. Donc là, ça va être difficile de nous attaquer. En revanche, sur l'uranium, il y a tellement de postures idéologiques qu'effectivement, vous allez vous retrouver je vais me retrouver au centre de critique, c'est sûr, mais je vous tiendrai informé des suites.
Donc là, sur celui-ci, vous enquêtez au Niger et à Narbonne, où se trouve donc la plus grande usine de conversion d'uranium en Europe, une usine d'Orano, donc le nouveau nom d'Areva, alimentée par de l'uranium provenant notamment d'Afrique. Donc à Narbonne, vous parlez de 300 000 à 400 000 mètres cubes de résidus à traiter. Côté Niger, ce sont des millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. À Narbonne, enfin, c'est à chaque fois, on reste un peu sans voix, le responsable du site qui quand même vous répond. C'est, quand on le voit, on se dit, mais est-ce que c'est sincère, c'est de la langue de bois? Quand il vous dit, je serai très clair, il le répète plusieurs fois, aucun impact environnemental autour du site. Mmh. Or, on voit bien qu'il y a un impact environnemental, oui, c'est ce que d'autres scientifiques vous disent.
Absolument, c'est vrai que c'est surprenant cette ligne de conduite de la part de Orano. J'ai jamais très bien compris. Alors déjà, il faut leur rendre hommage, ils m'ont ouvert leurs portes.
Donc, oui, voilà, j'étais étonné quand même de ça.
Une posture de transparence qu'il faut leur reconnaître. Et donc, je les remercie pour ça. Et je suis content qu'ils l'aient fait parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire. En fait, je pense que ce qu'ils veulent plutôt dire, c'est qu'il n'y a pas d'impact sanitaire. Mais en réalité, c'est souvent comme ça chez l'industriel. Plutôt que d'être dans la nuance, ils nient tout en bloc. Et c'est impossible aujourd'hui, je vous le dis d'un point de vue journalistique et non militant, c'est impossible de dire que ce site n'a pas d'impact environnemental. C'est impossible. C'est pas moi qui le dis.
Mais oui, c'est étonnant d'entendre encore ça. Quoi. On se demande comment, même au niveau de la responsable communication, comment ils ne font pas évoluer un peu leur ligne de réponse depuis le temps, maintenant qu'il y a des reportages qui montrent tout ça.
C'est la question à leur poser, effectivement. Je m'invite à les contacter pour une interview. Mais, mais c'est vrai que ce serait quand même pas... Il y a quand même parfois beaucoup de fantasmes autour de l'industrie du nucléaire, hein, à juste titre, et puis parfois, mais en fait, ils se tirent parfois tout seuls des balles dans le pied en n'ayant pas plus de nuances, en ne reconnaissant pas que parfois il y a eu des mauvaises gestions, mais tout en rassurant sur l'impact sanitaire. Enfin, ce serait un discours qu'on pourrait entendre, vous voyez, mais de tout nier en bloc comme ça, je trouve ça. J'ai trouvé, comme vous, que c'était surprenant. Mais c'est leur point de vue, c'est le contradictoire, il faut l'écouter, et il l'argumente, et c'est à lui de le défendre, et c'est pour ça que je suis content qu'il l'ait fait, et j'invite, encore une fois, les industriels à nous ouvrir leurs portes, parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire, et leur point de vue est aussi important que celui des militants, à mes yeux.
Mais lui, il défend, si je me souviens bien, qu'en fait, ils sont dans les normes au niveau des rejets toxiques, c'est ça ?
Absolument, oui. Alors, il dit qu'il est dans les normes en termes de rejets toxiques. Là, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a eu des accidents par le passé qui ont montré la présence de certains éléments radioactifs dans ces résidus-là qui n'auraient pas dû être là. Ce qu'il ne dit pas non plus, c'est qu'avec le temps, il y a eu une exposition et un impact un peu plus au-delà du site qu'au-delà du site industriel. Et voilà, donc c'est évidemment des nuances qui sont importantes à prendre en compte. Mais comme vous le dites, c'est sa défense et je la respecte et il faut l'entendre et c'est pour ça qu'on l'a mise dans le documentaire.
Mais on se demande du coup si les normes ne devraient pas être revues, parce que si eux, en étant dans les normes par rapport à ce qu'ils rejettent, ça crée les dégâts que vous montrez, on se demande, ces normes, est-ce qu'elles sont bien au point pour nous protéger, pour protéger notre environnement ?
On peut effectivement s'interroger sur ces normes-là et on peut, oui, tout à fait poser la question de l'accumulation, puisque l'uranium étant également un élément qui est rémanent, c'est-à-dire que voilà, il va il va rester avec le temps, il va s'accumuler, il est difficilement lavable. C'est vrai que ce ne sont pas des industries qui sont anodines. Donc oui, on peut se poser la question de la légitimité et de la bonne conduite de ces normes aujourd'hui. Oui.
Au Niger, donc là vous allez voir les populations locales, on vous voit notamment avec un groupe de personnes qui habitent près du site et vous demandez, enfin je ne sais plus si c'est vous, quelqu'un qui est avec vous, qui demande à ces personnes qui est malade ici. Ils lèvent tous la main, donc ils sont tous malades. Là aussi vous faites des analyses d'eau et les résultats sont assez... j'ai même pas de mots, quoi, affligeants on va dire. Et ces personnes-là, personne n'est jamais venu les voir avant vous. En fait, on s'en fiche ou c'est quoi le...
Si, il y avait eu un documentaire réalisé il y a une bonne dizaine d'années, je pense maintenant, sur le Niger. En fait, il y a plusieurs difficultés sur le Niger. C'est que vous êtes dans un pays qui est en proie aux attaques terroristes assez récurrentes. Donc, en termes d'accès, c'est très compliqué. Par exemple, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je sais qu'il y en a qui, des journalistes qui ont tenté d'y aller pour un autre sujet, ils ne peuvent plus y aller. C'est dans cette région-là, là, on a plus le droit d'y aller, même avec une garde comme celle que j'ai dans le documentaire où effectivement j'ai été obligé d'être accompagné par une dizaine de soldats pour aller dans cette zone-là. Parce que vous avez en gros d'un côté Al-Qaïda et de l'autre côté l'État islamique. Donc voilà, c'est pas... En termes de casting, c'est pas génial. Et donc, oui, vous avez déjà une difficulté d'accès. Puis, vous avez une difficulté pratique de prélèvement. Il n'y a aucun laboratoire au Niger pour faire ce genre d'analyse. Donc, vous devez les rapporter avec vous, avec tout ce que ça veut dire en termes de respect de la conservation, de respect des réglementations, parce qu'il s'agit quand même de, pour certains, parfois de prélèvements qui sont radioactifs. Donc, c'est une certaine réglementation en termes de transport. Donc, tout ça fait que vous avez sans parler évidemment de l'isolement, on est au milieu du désert. Hein, donc, tous ces éléments mis bout à bout font que ce sont des endroits oubliés, perdus du monde, où les journalistes d'investigation vont assez peu, où quand on y va plutôt pour faire du reportage, raconter ce qu'on voit, ce qui est très bien, mais ce qui est peut-être pas suffisant pour les questions environnementales.
Mais ce que je voulais dire, c'était des personnes qui sont responsables de cette pollution. Personne ne va vous... du site d'Orano, personne ne... Et surtout que vous dites que... Donc vous m'apprenez qu'il y a déjà eu un sujet il y a 10 ans, et alors rien n'a été fait depuis. Comment ça...
Si, il y a quand même certaines habitations dont les murs étaient radioactifs qui ont été détruites. Il y a eu un travail qui a été fait par plusieurs partenaires sur place. Donc il y a eu une amélioration là-dessus, mais comme vous l'avez vu, il en reste encore. Et c'est ça qui est rageant. Effectivement, si j'avais eu plus de temps, j'aurais voulu venir dans les détails de la situation au Niger, mais c'est qu'on sait, en réalité, on sait très bien ce qui se passe. On sait qu'il y a de la ferraille qui est contaminée, on sait qu'il y a des murs qui sont contaminés, on sait qu'il y a à certains endroits des taux de radioactivité importants. En revanche, je crois que ce qui a été amélioré, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau est de meilleure qualité puisque des nouveaux puits ont été creusés, des nouveaux conduits ont été amenés. Et donc ça, c'est au moins une progression qui a été faite. Donc il faut le dire, il faut le prendre en compte. Oui. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une très très mauvaise nouvelle, c'est que cette mine Areva, qui s'appelle aujourd'hui Orano, est en train de la fermer. Et pour avoir notamment vu ce que ça donnait en termes de fermeture au Gabon, les anciennes mines d'uranium, je ne suis pas très confiant quant à l'avenir, mais peut-être que je me trompe.
Sur le fait qu'il y a un certain abandon, vous voulez dire ?
Potentiellement. Qu'il y aurait pas, potentiellement, j'ai vu comment à quoi étaient confrontées les populations du côté de Mounana au Gabon, et j'espère que ce ne sera pas la même chose au Niger, à Arlit.
Et en fait, je me demandais un peu naïvement, mais j'aime bien quand même poser la question, parce que vous en avez fait beaucoup maintenant, des documentaires de ce type, même avant Vers de Rage. Et je me demande toujours, par rapport à toutes ces victimes, par rapport à ces gens qui ne veulent pas faire de la protestation pour faire de la protestation, ils veulent juste que l'on respecte leur vie, leur santé. Donc on voit à chaque fois les impacts sur l'eau, sur les terres, sur les aliments, sur l'air, sur leur propre vie, sur celle de leurs enfants. D'où vient, à votre avis, une telle indifférence, un tel mépris? Pourquoi il y a autant d'endroits dans le monde, finalement, où on retrouve ces mêmes situations?
Je crois que c'est quelque chose d'assez naturel, c'est que ça ne nous concerne pas directement. En tout cas, on a l'impression que ça ne nous concerne pas directement. Et tout le travail de Vers d'Orage, c'est aussi de montrer que ça nous concerne. C'est de raconter comment une pollution au bout du monde est en lien avec nos outils de consommation, avec notre façon de vivre, avec notre société dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on a essayé vraiment de rattacher des pollutions du monde entier à ce qui se passe en France et qu'on continue de le faire. Oui. Je crois que cette indifférence, elle naît d'un éloignement, d'un sentiment un peu de... Oui, Oh, finalement, c'est tellement loin, c'est pas très grave, quoi, s'ils ont qu'à se débrouiller.
Mais les responsables des entreprises ou les responsables politiques que vous allez rencontrer, c'est de leur indifférence dont je voulais parler.
Leur indifférence, elle est, quand vous allez voir les gouvernements locaux et les autorités locales, ça, c'est vrai que ça pose question, parce que ils sont tous confrontés à ça, le chef du lobby du charbon, il respire le même air que les mères de famille qui se battent pour un meilleur air. Donc ça c'est une vraie question, et je crois que la réponse, elle est aussi vieille que le monde existe. C'est que vous avez des personnes qui sont dans des situations de profit, qui vont profiter de manière numérique, hein, l'argent étant l'alpha et l'oméga de tout cela, de la situation, et d'autres qui en sont victimes. Et ces personnes qui en profitent sont les complices des industries qui commercialisent à l'autre bout du monde ces produits-là. Et c'est vrai que ça, c'est rageant. Je crois que ce qui avance un peu plus dans notre monde occidental, c'est cette question de la responsabilité de nos entreprises ou de nos actions. Avec, vous vous rappelez de la catastrophe du Rana Plaza, qui a vraiment
au Bangladesh, donc avec l'industrie textile.
Qui a, donc c'était cet immeuble entier qui avait quand même tué plus de 1000 personnes. Hein. C'est immense. Hein. C'est un demi Twin Towers. Enfin, c'est un demi 11 septembre. C'est vraiment pas rien du tout. Cet immeuble de confection textile qui s'est effondré. Ça nous a quand même permis de réfléchir à la responsabilité de la sous-traitance, parce qu'aujourd'hui, toutes les multinationales font appel à la sous-traitance. C'est un peu, moi je trouve, très souvent l'arme du lâche. C'est-à-dire qu'un sous-traitant va employer des enfants, c'est pas nous, c'est le sous-traitant. Un sous-traitant va polluer, c'est pas nous, c'est le sous-traitant. Et on change de sous-traitant. On change même de pays parfois, parce que le pays est devenu trop exigeant en termes de régulation et de pollution ou de droits humains. Et donc on va aller dans un pays qui est moins disant. Ces lois qui sont en train de passer, notamment la loi qui a été très portée par une organisation qui s'appelle l'étiquette. Sur la responsabilité des entreprises, même vis-à-vis de leurs sous-traitants, ça, je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment dans le bon sens et qui peut concrètement changer les choses. Aujourd'hui, une entreprise multinationale française a un devoir de vigilance, ça s'appelle le devoir de vigilance, de regarder ce que font ces filiales ou ces sous-traitants dans le monde. Elle ne peut pas simplement fermer les yeux. Et elle est même obligée, cette multinationale, à publier un rapport de devoir de vigilance et de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le monde. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a quand même des étapes qui portent à espérer, tout simplement.
Oui. C'était une des premières interviews de So Sweet Planet, d'ailleurs, cette histoire de Rana Plaza. J'avais interviewé une responsable de l'ONG Peuple Solidaire qui travaillait contre l'étiquette, je ne sais plus exactement.
Oui, j'ai oublié aussi. Je crois que c'est éthique contre l'étiquette.
Et j'en profite pour rappeler, parce que quelquefois, il est de bon ton aussi de faire du bashing sur les ONG, mais c'est quand même souvent grâce à des ONG que, suite à ces catastrophes, il y a un travail de suivi de fond derrière, parce qu'il faut quelquefois des années pour réussir à faire bouger les lois et à ce que les droits humains, l'environnement, et le, à ce qu'il y ait une meilleure protection du vivant. Donc c'est important, tout ce travail, comme celui que vous faites. Donc Martin Boudot, félicitations et un grand merci.
Merci à vous pour votre intérêt.
Pour cette interview. Donc les deux, j'ai noté que les deux saisons seront disponibles en replay sur France TV pendant 60 jours.
Absolument.
Que 60 jours. Ça reste pas après.
Moi, j'aimerais que ce soit plus longtemps que ça. En fait, on a des accords avec des accords cadres dans l'audiovisuel qui font qu'on peut pas laisser plus longtemps les. Mais en fait, on va les retrouver assez vite, je pense. Moi, je vais me battre pour qu'elles soient diffusées plus longtemps. C'est des histoires d'hébergement, de contrats. Enfin, c'est des trucs qui me dépassent. Je pense que quand on travaille dans le service public, nos sujets devraient être disponibles à vie. On a un train de retard là-dessus. Nous aussi, il faut qu'on travaille et qu'on insiste. Mais on va tout faire pour que ce délai soit allongé. Dites-vous que normalement, c'est soit 7 jours, soit 1 mois. Déjà, là, on a eu 2 mois, donc on est content.
Progrès.
Mais voilà, on fait tout pour qu'il y ait le maximum de visibilité parce que nos documentaires, on essaye vraiment tous ici qu'ils soient le plus utiles possible. Et pour qu'ils soient le plus utiles possible, il faut qu'ils soient vus. Et pour qu'ils soient vus, il faut qu'ils soient disponibles. Donc, voilà. On se bat pour que ce soit le cas.
D'autant plus que moi, les podcasts sont écoutés, bien évidemment, au moment de la mise en ligne de chaque nouveau podcast. C'est le gros des écoutes. Mais après, il y a des écoutes pendant des mois, des années, puisque là, j'en suis à 2 ans et demi. Il y a des podcasts que j'ai mis au tout début qui sont encore très écoutés. Donc, les gens, j'espère, pourront encore dans 1 an, 2 ans, aller rechercher sur le net et retrouver et voir ces documentaires qui vont être diffusés donc dimanche 19 septembre à 20h55 sur France 5 pour les deux premiers. Le troisième, il sera accessible, l'uranium, il sera accessible tout de suite
tout
sur France.tv
France.
Ou après sa diffusion.
Il sera accessible dès le 19 sur France.tv et il sera ensuite diffusé courant du mois d'octobre. J'ai
sur
pas
France
encore la date 5. Sur France 5.
Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Martin. Très bonne continuation. Il y a déjà une troisième saison en perspective ou...
C'est bien parti pour. Ouais. C'est pas officiel, mais on y réfléchit assez sérieusement.
Merci beaucoup. Très bonne continuation. Et je vous souhaite un maximum de vues sur France 5 et sur France.tv.
Merci beaucoup.
Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.